actualité. Et l'on retrouve notre invité, Mgr Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, qui publie aux éditions du Cherche Midi « Chrétiens d'Orient, restés sur notre terre ».
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Dans votre livre, Mgr Pascal Golnisch, vous avez toute une réflexion sur l'islam et la modernité. Et j'ai le sentiment que finalement vous vous tournez plutôt vers les chiites aujourd'hui pour trouver une solution à la question de la modernité.
L'une des difficultés qu'on a avec le monde sunnite, c'est qu'il n'y a pas d'autorité très claire. Tandis que dans le monde chiite, il y a une structure hiérarchique qui permet peut-être plus facilement d'avoir des interlocuteurs. D'autre part, dans le chiisme, il y a une certaine attente des fins dernières, une espèce de sens de l'histoire. Les spécialistes disent eschatologie, qui rapproche un peu de ce qu'on connaît dans le christianisme. Et puis aussi, il y a une sorte de sens du sacrifice qu'on trouve davantage dans le monde chiite. Là aussi, ça rapproche de la culture chrétienne. Mais après ça, je pense que il faut de toute façon parler avec les uns avec les autres, qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne se retrouvent absolument pas dans les violences qui sont faites ici ou là, qui veulent que leur pays avance vers plus de modernité et qui attendent des chrétiens une aide, enfin une participation à ce travail. Et de cette avance vers la modernité, les chrétiens peuvent être à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Avancer vers la modernité, c'est à dire que, il n'y a aucune raison que ces pays ne connaissent pas un certain nombre d'éléments de nos démocraties, mais pas forcément copier les démocraties occidentales. Il faut que le génie arabe, chrétien et musulman, trouve son modèle. Mais en même temps, il y a des éléments. Je pense qu'il n'y a aucune raison que dans ces pays, par exemple, on marque la religion sur les cartes d'identité. Il n'y a aucune raison pour que les chefs politiques soient inféodés aux chefs religieux. Il n'y a aucune raison pour que la liberté d'expression soit étouffée. Donc, vous voyez, il faut aider ces pays, mais ça doit être les habitants eux-mêmes qui doivent s'emparer de la question. Il faut que ces pays avancent vers plus de modernité.
Est-ce que, selon vous, le mode de vie occidental a aussi pu jouer un repoussoir ?
Bien sûr, au moins de deux raisons, trois raisons. D'abord, encore une fois, l'invasion en Irak a été une catastrophe et a quand même dressé contre une partie de l'Occident, pas contre la France, puisque la France n'y a pas participé, mais enfin contre l'Occident qui a participé, ça a dressé le monde musulman. Ensuite, certaines alliances, par exemple de la France, avec des pays de la péninsule arabique qui sont quand même pas tout à fait les champions des droits de l'homme, contribue à nous déconsidérer. Troisièmement, nos modes de vie sont parfois assez choquants. Je suis pas sûr que la femme en Occident soit toujours respectée quand il faut qu'elle soit à moitié nue sur des publicités pour nous faire acheter je ne sais quoi. La fragilisation de la cellule familiale, ça choque des musulmans aussi. Donc tout ça est à prendre en compte. Donc certains ont bien vite fait de dire, vous voyez, comme l'Occident matérialiste veut nous combattre et donc nous, il faut que nous résistions à ce que aux valeurs de l'Occident. Le discours est un peu facile, un peu grossier, mais il passe parce que nous ne savons pas donner une juste image de nos valeurs.
Aussi, pour vous, accueillir les migrants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, en Occident, suppose une prise en compte de ce qu'est être un oriental, c'est-à-dire un homme de foi, un homme attaché à la famille.
Bien sûr, je crois qu'il faut connaître les gens qu'on prétend accueillir. D'ailleurs, vous m'aviez posé la question, j'y ai mal répondu. Oui, je pense qu'il faudrait que dans nos pays, on sache accueillir provisoirement des gens dont la vocation est de retourner dans leur pays quand la crise sera terminée. Et on a un seul chemin qui est un peu intégratif, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours judicieux. Mais vous voyez, j'ai eu une histoire d'une famille qui accueillait des réfugiés, et ils avaient fait un beau repas pour le premier soir, ils avaient fait une quiche lorraine, avec donc des lardons. Et c'était une famille musulmane, et donc elle a poussé des cris en disant « Vous voulez nous obliger à manger du cochon, on pensait bien que vous vouliez nous convertir, etc. » Enfin, ça s'est très mal passé. Il fallait savoir que cette famille était musulmane, et que donc il y a un certain nombre de choses à savoir si on accueille une famille musulmane.
Oui, il fallait faire un soufflé au fromage, quoi.
Voilà. Et si on accueille une famille yézidie, les Français ont découvert qu'il y avait ces yézidis qui ont été très durement massacrés par l'État islamique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une famille yézidie? De quoi elle a besoin? Vous voyez? Alors, je sais bien que notre laïcité, qui n'est pas sans vertu, fait qu'on accueille des citoyens et qu'on, voilà, qu'on n'est pas censé regarder de plus près leur appartenance religieuse. Mais oui, d'accord, bon, c'est bien, mais il faut quand même connaître les croyances de ceux qu'on accueille pour pouvoir bien les accueillir, et donc il faut connaître tout cela.
Vous avez probablement été le directeur de l'œuvre d'Orient qui a été confronté à la situation la plus extrême depuis le début de votre mandat. Vous entamez d'ailleurs un second mandat, c'est bien cela, non ?
Un troisième mandat.
Quelle est votre responsabilité, Monseigneur Gollnisch ?
Nous devons redire sans cesse qu'il y a une possibilité pour les chrétiens d'Orient de vivre en Orient. Voilà. C'est trop facile de dire c'est la mort des chrétiens d'Orient, etc. Oui, il y a des chrétiens d'Orient qui quittent leur pays, on peut le comprendre, mais il y en a encore plus qui restent et qui veulent rester. Alors évidemment, ils veulent rester à condition de pouvoir y vivre en sécurité, ça dépend pour une part de nous-mêmes. Mais arrêtons de penser, encore une fois, que la seule solution, ce soit leur départ. Ce serait vraiment une tragédie, pas pour eux, pas pour l'Église, ce serait une tragédie pour les pays de départ. Et croyons à leur avenir en Orient, voilà le message que nous voulons faire passer, résister sur notre terre.
Oui, et c'est le titre, Monseigneur Gollnisch, de votre livre « Chrétien d'Orient, résister sur notre terre » aux éditions du Cherche Midi. Alors, je rappelle que l'œuvre d'Orient, dont vous êtes le directeur général, organise chaque année un prix littéraire. Cette année, c'est le livre « Taïbé, dernier village de Palestine » de Falk Van Gaver et Kassa Mahdi, aux éditions du Rocher, qui a remporté le Grand Prix. Et puis le prix académique a été décerné à Joseph et Claire Yacoub pour leur enquête historique sur les Assyro-Chaldéens du Caucase, aux éditions du Cerf.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Adrien Candiard est un jeune dominicain de 34 ans qui est arrivé au Caire en 2012 où il a rejoint l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales où vit une communauté religieuse qui se consacre à l'Orient et au dialogue islamo-chrétien grâce à ses chercheurs et sa bibliothèque qui compte parmi les plus riches de la région. Frère Adrien Candiard est un intellectuel qui se veut un homme de pont. Pédagogue, il vient de publier chez Flammarion « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». Il vient, dans le même temps, de publier aux éditions du Cerf un livre qui s'adresse à une société française déprimée, « Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité d'espérance à l'usage des contemporains ». Alors que les musulmans vont entrer dans le mois du Ramadan, c'est à l'islam, aux prises avec l'islamisme, que nous consacrons cet entretien. Frère Adrien Candiard travaille sur un auteur qui est la référence des salafistes, le théologien musulman du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah. Pourquoi ?
J'ai comme chercheur et comme religieux un devoir d'avancer dans le dialogue interreligieux. Un dialogue qui ne vise pas à nous mettre d'accord entre chrétiens et musulmans sur un certain nombre de points qui seraient de dire qu'on est pour le bien contre le mal. On ne va pas tomber d'accord entre chrétiens et musulmans sur la théologie, c'est pas le but du jeu. Je crois que si le dialogue sert à quelque chose et s'il est urgent aujourd'hui, c'est pour commencer un dialogue exigeant où on peut de croyant à croyant, en se respectant, en se connaissant, en travaillant sur la tradition de l'autre, se poser des questions aussi là où ça fait mal. Il ne s'agit pas de s'enfoncer, mais bien de se faire avancer. Et on a aujourd'hui à poser à l'islam, aux représentants de l'islam, des questions précises sur le droit de changer de religion, sur évidemment le rapport à la démocratie. Mais je crois que le droit de changer de religion est un point, par exemple, absolument essentiel, sur lequel on peut avancer, sur lequel on peut se faire avancer. Parce qu'on a, entre chrétiens et musulmans, des expériences historiques qui ne sont pas les mêmes. On a une réflexion qui n'est pas la même, mais qui se pose dans des cadres finalement relativement parallèles sur ce genre de questions-là. On a besoin de s'interroger. On a besoin de se dire, est-ce qu'on a le droit de passer d'une religion à une autre ? Est-ce qu'on a le droit d'abandonner une religion ? Est-ce que ce qu'il y a derrière cette question qui pour moi est essentielle, c'est est-ce que la religion est une identité indiscutable ou est-ce que c'est aussi, peut-être même d'abord, de l'ordre de l'opinion, c'est-à-dire de quelque chose qu'on a le droit de discuter rationnellement sur lequel on a le droit de changer d'avis. Et je crois que c'est un élément essentiel. Si on veut que la religion trouve sa place dans un cadre démocratique moderne, il faut d'urgence qu'elle trouve un ancrage rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut la prouver rationnellement, mais qu'on puisse en discuter rationnellement. Et le fait de pouvoir changer de religion acte qu'il s'agit d'un choix rationnel et non pas d'une identité indiscutable.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le théologien, sur un des théologiens de référence des islamistes? Qu'est-ce que ça apporte?
Ibn Taymiyyah, ce théologien qui est le théologien effectivement de référence pour les wahhabites, les salafistes, et qui est constamment cité dans le monde arabe, il vraiment tout le monde le connaît. Hors de l'islam, on en parle peu, on le connaît peu, et je trouve que c'est dommageable, parce que on a, je crois, comme chercheur, et spécialement peut-être comme islamologue chrétien, besoin de ne chercher non pas les points d'accord en se disant, mais travailler sur des auteurs soufis qui sont très spirituels, très agréables, mais comme je vous le disais, je crois que le dialogue doit aussi pouvoir porter sur les questions qui fâchent, les questions difficiles. Ensuite, Ibn Taymiyyah est un auteur beaucoup plus intéressant que beaucoup de ses lecteurs aujourd'hui. Beaucoup plus intelligent, beaucoup plus nuancé. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui polémique avec tout le monde, mais pour polémiquer avec tout le monde, il a lu tout le monde. Il a lu les philosophes arabes, il a lu les théologiens arabes, il connaît la mystique musulmane. Enfin, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a pris la peine de développer rationnellement ce qu'est sa position littéraliste. Très souvent, le monde littéraliste est un monde un peu fidéiste qui va expliquer qu'il faut lire le Coran sans discuter et que c'est comme ça et il n'y a pas de question à se poser. Ce qui est un petit peu, si vous voulez, le fond de commerce du salafisme aujourd'hui. Ibn Taymiyyah est un auteur qui prend la peine de justifier très longuement ce genre de position-là. D'habitude, ce genre de position ne se justifie pas. On considère qu'il se tient par lui-même. Ibn Taymiyyah a pris la peine de polémiquer avec toute la tradition musulmane, qui est beaucoup plus nuancée que ça, sur le rapport entre la raison et la révélation, lui prend la peine de descendre dans l'arène et de dire non, il faut donner le primat à la révélation, au texte révélé, sur le raisonnement rationnel, parce que le texte révélé permet d'arriver à plus de certitude. Il a pointé des failles dans la logique grecque, et des failles qui sont sérieuses, enfin que la réflexion logique par la suite permettra de surmonter. Il pointe des contradictions dans la réflexion philosophique, il pointe des éléments qui sont des éléments sérieux. C'est-à-dire que enfin on a un auteur qui prend la peine de construire intellectuellement une position qui nous paraît à peu près aberrante parce qu'elle nous paraît non rationnelle. Donc je crois qu'on doit prendre au sérieux les auteurs dans la tradition islamique qui attaque la rationalité grecque.
Mais alors, est-ce que ça n'est pas de votre côté une façon, d'accréditer sa posture théologique et intellectuelle?
Je pense que il a déjà une influence. Je ne vais pas chercher un auteur inconnu dont personne n'a rien à faire. Je vous parle de l'auteur de référence de l'État islamique et de tout le monde islamiste. Il faut commencer à le prendre au sérieux. C'est-à-dire que regarder les islamistes de haut en disant « les pauvres chéris, ils sont là par misère sociale, par réaction à l'impérialisme occidental, sans prendre… »
À la colonisation.
À la colonisation, à tout ce qu'on veut. Alors certes, tout ça est vrai, mais il faut aussi prendre au sérieux le discours islamiste dans ses fondements. Ils existent, regardons-les de près. Regardons leurs bons auteurs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Regardons-les de près, commençons à discuter avec ce qui est discutable. Ce n'est pas avec des poseurs de bombes qu'on va discuter, mais commençons à regarder les fondements intellectuels de l'islamisme. Je crois qu'il y a une urgence à ça. C'est complexe, c'est assez dépaysant de discuter, enfin de travailler sur un auteur qui rejette la rationalité à laquelle on est habitué, mais qui bâtit une autre forme de rationalité. Si le Daesh convainc des jeunes musulmans aujourd'hui, ça n'est pas uniquement par sa radicalité violente, c'est aussi parce qu'il propose, dans le monde d'aujourd'hui, un certain nombre de réponses, qui sont des réponses inacceptables, évidemment, mais qu'il faut commencer à écouter.
En même temps, il y a une grande pauvreté, souvent, théologique, dans les arguments avancés.
Le salafisme ne présente pas une théologie riche ou intéressante. Il a des fondements intellectuels qu'il faut prendre au sérieux. Mais le salafisme a le mérite, dans le monde musulman d'aujourd'hui, dans le monde sunnite d'aujourd'hui, ce serait beaucoup moins vrai pour le monde chiite iranien, qui est intellectuellement présente des éléments intéressants et sérieux. Dans le monde sunnite d'aujourd'hui, le salafisme profite de la faiblesse des institutions sunnites traditionnelles, qui ont proposé historiquement une théologie, des traditions juridiques d'une très grande richesse, et dont la crise depuis le XIXe siècle est le drame du monde sunnite, puisque c'est sur cette crise que prolifèrent des simplismes et des visions de l'islam absolument catastrophiques, qui n'existeraient sans doute pas si l'islam plus traditionnel, qui a toujours été un islam beaucoup plus nuancé, beaucoup plus ouvert à la diversité, pouvait proposer pour le monde d'aujourd'hui un islam qui apporte des réponses. On va demander aujourd'hui aux musulmans de se désolidariser des terroristes, et ils le font en général. Enfin, mais il serait beaucoup plus utile, beaucoup plus important, beaucoup plus urgent que ces autorités musulmanes, qui sont absolument pas complices du terrorisme, puisse dire autre chose que Daesh n'est pas mon islam. Il faudrait qu'il puisse proposer aux jeunes musulmans quelque chose de positif et pas simplement le rejet du terrorisme. Un jeune musulman qui est mal dans la société française ou dans la société du monde arabe, qui est séduit par la radicalité de Daesh, il ne faut pas lui proposer de la modération. Ça ne sert à rien. Il faut commencer à proposer une autre radicalité. Une radicalité qui ne soit pas une radicalité violente, mais qui soit, je crois, une radicalité spirituelle. Si l'islam parvient à proposer à des jeunes la profondeur de la rencontre avec Dieu, alors peut-être ça les emmènera ailleurs et dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je pense que l'islam a dans sa tradition des propositions spirituelles. Je crois beaucoup à la possibilité spirituelle de l'islam dans la crise d'aujourd'hui. Peut-être même des ressources intellectuelles qui aujourd'hui sont malheureusement sous-exploitées par l'islam traditionnel pour s'opposer à Daesh activement et utilement.
Revenons à ce théologien sur lequel vous travaillez. Vous y relevez effectivement des arguments à prendre tout à fait en compte, une pensée rigoureuse et intéressante, mais ça va apporter quoi après ?
Une fois encore, Ibn Taymiyyah, je ne l'invente pas. Il existe et il est influent. Si on veut continuer à se parler jusqu'au bout, alors il faut écouter ce que tout l'islam peut avoir à dire, y compris dans ce qui ne nous plaît pas. Et il faut continuer à travailler, alors comme chercheur, il faut travailler intellectuellement pour essayer de faire rentrer dans un cadre de dialogue rationnel, académique, aussi les auteurs qui semblent les plus difficiles à faire rentrer dans ce cadre-là. Si on renonce à ça, alors on accepte qu'il y ait plusieurs humanités parallèles qui ne peuvent pas se rencontrer. Je crois qu'il est urgent qu'on prenne au sérieux les auteurs les plus difficiles, faire un petit effort pour rentrer dans une logique qui ne nous est pas du tout familière, qui nous est largement étrangère, qui demande énormément de lecture, énormément de travail. Mais si on ne fait pas cet effort-là, alors on accepte que des humanités différentes vivent sur cette planète et ne peuvent pas se parler. Je crois que, quoi qu'il en soit, face à une menace comme celle qu'on connaît aujourd'hui, il faut travailler sur le court terme, évidemment, et les réponses ne sont pas académiques. Il faut aussi travailler sur le long terme. Et autant répondre à Daesh en écrivant des thèses de doctorat ne sert à court terme à rien, autant je crois qu'il faut préparer les possibilités d'un dialogue, les possibilités d'une discussion entre chrétiens et musulmans, toujours et sur tous les sujets. Cet effort-là, qui est celui de l'institut auquel j'appartiens en Égypte, l'Institut dominicain d'études orientales, au Caire, c'est de travailler sur des temps géologiques. C'est-à-dire peut-être qu'on améliorera les choses d'ici un siècle. Mais pour que les choses se soient améliorées d'ici un siècle, il faut les commencer maintenant. L'histoire est blessée et le présent est blessé. Il y a trop de méfiance de part et d'autre. On a besoin de travailler sur le très long terme. Si on veut un jour sortir de l'impasse dans laquelle on est depuis trop longtemps, il faut poser des pierres dès aujourd'hui.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Frère Adrien Candiar, ce travail sur l'islam, donc son adaptation à la modernité, vous le menez, vous, dans une bibliothèque au Caire, en Égypte. Quels sont, selon vous, les pays qui pourraient devenir des pôles de recherche, des pôles de transformation? Est-ce que, par exemple, la France pourrait en être un?
L'islam de France connaît aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, de très fortes divisions qui l'affaiblissent considérablement, qui l'empêche de donner ce qu'il pourrait donner au monde, c'est-à-dire un développement intellectuel autonome qui est un écho dans le monde musulman. Vous avez en France des intellectuels issus du monde musulman, qui sont pour certains d'entre eux tout à fait croyants et qui cherchent à développer quelque chose. Leur écho est malheureusement encore aujourd'hui, y compris dans l'islam de France, relativement marginal. Ça ne veut pas dire que ça durera toujours, mais les divisions de l'islam de France empêchent que n'émerge une école, le moyen de repenser l'islam dans un cadre à la fois moderne et républicain, qui soit autre chose que la matrice arabe. On voit que les cadres locaux de l'islam de France sont largement formés à l'étranger, payés par l'étranger, et intellectuellement pris dans des cadres qui ne sont pas le cadre européen. Il y a évidemment une urgence à repenser tout cela. On ne peut pas le faire à la place des musulmans. Plutôt que de demander aux musulmans de France de se désolidariser de Daesh et de défiler avec des pancartes « Not in my name », ce qu'on peut attendre des musulmans européens, c'est d'arriver à faire de la théologie musulmane.
Frère Adrien Candiar, l'Iran bouge aujourd'hui. Est-ce que l'avenir, en tous les cas, est-ce qu'une des clés de sortie du blocage de l'islam pourrait venir de l'Iran chiite, même si c'est de là qu'est parti en partie tout le blocage, avec la révolution en 1979 et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini?
On connaît mal l'Iran en France, il est un peu en dehors de notre champ de vision, pour beaucoup de raisons, et notamment parce que l'islam chiite, dont l'Iran est le fer de lance, est très peu présent en France. Alors la plupart des musulmans de France viennent du Maghreb, viennent de pays intégralement sunnites. On est habitué, quand on dit l'islam, en général, on pense à l'islam sunnite exclusivement. Aujourd'hui, le dialogue entre sunnites et chiites est au point mort. On a atteint un point de détestation et de cette scission de l'islam atteint, je crois, un point de non-retour qu'elle n'avait peut-être pas à ce point-là dans le passé. La révolution iranienne a donné la main en termes d'action historique au chiisme, ce qui a stupéfait, parce que c'était pas du tout l'habitude, l'islam arabe.
C'était la revanche, en fait, du monde chiite sur le monde sunnite. Voilà.
Soudain, le monde chiite devenait un acteur majeur de l'histoire et de l'histoire du monde musulman. Et l'islam sunnite s'est senti concurrencé. Et donc, ça a ravivé, évidemment, des tensions communautaires tragiques. On voit que un problème de l'islam aujourd'hui, spécialement dans le sunnisme, et d'accepter ce qui s'est très bien accepté pendant des siècles, à savoir la diversité. La diversité au sein de l'islam, qui a très bien tenu très longtemps, ne va plus de soi, et donc ça ravive des conflits confessionnels à l'infini. Pour autant, l'Iran, qui a lancé une vague islamiste dans les années 70, à la fin des années 70, avec une situation politique qui est loin de la démocratie, un certain pluralisme dans la pensée, une certaine ouverture et une exigence intellectuelle tout à fait intéressante. Le clergé chiite est un clergé relativement bien formé à la philosophie, qui s'intéresse à ce qui se passe en Occident dans le monde de la pensée, qui lit les auteurs occidentaux, qui s'intéresse aussi au monde chrétien. On a traduit récemment en persan la Bible dans une très belle traduction. Ça ne leur fait pas peur qu'une belle traduction de la Bible circule. Il y a une curiosité vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs. La tradition intellectuelle iranienne est très ancienne, passionnante. Il y a dans la formation du clergé chiite une attention à la tradition philosophique de l'islam et dans tout son apport de son dialogue avec la pensée grecque, ce qui a beaucoup largement disparu du monde sunnite religieux, s'est maintenu de manière très vivante dans le monde chiite. Je pense qu'on revient à une tradition chiite ouverte, une tradition chiite de dialogue des rationalités qui peut-être ouvrir des clés pour l'avenir.
Alors, pour refermer cet entretien, frère Adrien Candiard, vous êtes un jeune dominicain, vous avez la trentaine.
Oui.
Ça va faire 3 ans que vous êtes en Égypte. Bon, vous êtes arrivé au moment des révolutions arabes. Vous, dans votre coin, vous travaillez tous les jours comme une petite souris de bibliothèque au milieu des livres avec des étudiants égyptiens. Est-ce que pour vous, c'est votre mission d'église ?
Il est urgent de sortir, et on le voit ces jours-ci, dans l'Église, on se pose beaucoup de questions sur l'islam. Il est urgent, et c'est la mission qu'on nous a confiée à nous, les Dominicains du Caire, de travailler sérieusement sur l'islam. L'islam mérite qu'on y consacre du temps, qu'on y consacre des années, qu'on y consacre sa vie, pour commencer à avoir une opinion qui n'est pas simplement fondée sur une approche superficielle, mais bien un travail sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on en fait le tour, mais je pense qu'il est urgent de s'investir sur un travail un petit peu informé. L'islam mérite ça.
Contre vent et marée.
Au contraire, parce qu'il y a des marées, parce qu'il y a des vents, ce travail n'en est que plus urgent.
Merci, frère Adrien Candiard. Je rappelle le titre de votre livre, publié chez Flammarion, « Comprendre l'islam ou pourquoi on n'y comprend rien ». C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Sophie Janin, vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.